Et c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin, Julie, le Rwanda s'apprête à envoyer ses soldats dans le nord du Bénin.
Oui, à 4700 km de Kigali, direction nord-ouest, où le Bénin est menacé par l'extension des groupes djihadistes du Sahel, en particulier provenant du Burkina Faso. En un peu plus d'un an, ce pays d'Afrique de l'Ouest a été frappé par une vingtaine d'attaques. Le GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda, recrute de plus en plus dans la population béninoise. C'est donc le président au président du Rwanda, Paul Kagame, que celui du Bénin, Patrice Talon, a demandé un soutien militaire. Plusieurs centaines de soldats arriveront en octobre, car depuis les années 2000, Kigali forme ses hommes aux opérations extérieures et a fait de son armée un véritable outil de diplomatie sur le continent. Bonjour Paul Simon Andy.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur du bureau Afrique de l'Est de l'Institut d'études de sécurité. Alors pour évoquer d'abord le déploiement militaire imminent des forces rwandaises de défense dans le nord du Bénin, qu'est-ce qu'on peut dire de la genèse de cet accord? Pourquoi le Bénin s'est-il tourné vers le Rwanda, qui est loin d'être son voisin direct? Et pourquoi Kigali a-t-il accepté cette mission?
Alors, il y a plusieurs raisons qui président au choix par le Bénin du Rwanda pour une assistance technique dans le cadre de la lutte contre les incursions des groupes dits djihadistes dans le nord du Bénin. Déjà, le Bénin veut renforcer sa coopération avec le Rwanda, déjà très entamée, avancée depuis que le président Talon est arrivé au pouvoir. Mais aussi, le Rwanda s'avère être un partenaire bilatéral très approprié à cause de l'expérience qu'il a eue dans d'autres théâtres similaires, notamment en République centrafricaine et au Mozambique. Donc pour le Bénin, il s'agit de se procurer les services d'un partenaire qui semble avoir de l'expérience, même si on peut se poser la question de savoir si le Rwanda a de l'expérience dans le théâtre béninois au nord du Bénin, qui est un théâtre sahélien, avec des groupes certainement plus aguerris que ce à quoi le Rwanda a pu faire face dans un théâtre comme le Mozambique.
C'est vrai que l'Afrique de l'Ouest est géographiquement, à la fois culturellement, très éloignée de cette zone d'influence traditionnelle du Rwanda. Au Mozambique, le Rwanda, l'armée rwandaise, a connu très très vite, dès que les hommes ont été envoyés par Kigali, des grands succès militaires. Comment ont réagi les voisins? Alors le Mozambique, c'est peut-être un petit peu plus logique, puisque le Rwanda a réintégré la communauté des États d'Afrique centrale, mais à chaque fois, que ce soit au Mozambique, en République centrafricaine et maintenant au Bénin, comment réagissent les voisins en voyant qu'un petit pays comme le Rwanda, toujours très éloigné de ses théâtres d'opération, envoie des hommes?
Alors, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, la réaction, les interventions du Rwanda, dans ce cadre bien précis, sont bilatérales. Et souvent, elles viennent en appoint ou précèdent, comme dans le cas du Mozambique, elles précèdent des interventions régionales. Alors, le déploiement du Rwanda, qui est un pays d'Afrique de l'Est, au Mozambique, qui est un pays d'Afrique australe, ont passablement irrité les voisins du Mozambique, notamment l'Afrique du Sud, qui poussait depuis très longtemps à une intervention régionale dans la au nord du Mozambique, dans la province du Cap Delgado, pour et surtout pour éviter une intervention du Rwanda en bilatéral. L'Afrique du Sud était irritée de voir ce petit pays venir pacifier une zone en Afrique australe,
oui, australe
que
pardon.
L'Afrique du Sud estimait pouvoir être en mesure de faire. Mais en Centrafrique, il n'y a pas eu véritablement de réaction négatif des pays voisins, notamment des pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et il serait intéressant de voir, une fois que le déploiement est fait, sous quelque nature que ce soit, au Bénin, comment est-ce que les pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest réagiront.
Voilà, vous avez bien fait de préciser que le Mozambique était en Afrique australe, et c'est ce pays où l'année, où depuis plusieurs années, depuis 2017, sévissent et s'étendent des groupes djihadistes, les Shabab. Donc le Rwanda y est intervenu. Voilà pour les accords bilatéraux. Le Rwanda est aussi impliqué dans des opérations plus larges de maintien de la paix, donc dans un cadre multilatéral et sous l'égide de l'ONU. Ça a été le cas au Darfour, dans l'est du Soudan, dès 2004, au Soudan du Sud, également en 2011, en Centrafrique. C'est une opération distincte de celle que vous avez évoquée tout à l'heure, cette fois en 2014. Combien de soldats rwandais sont en ce moment mobilisés sur des opérations de maintien de la paix, et quels bénéfices en tire le Rwanda, peut-être en termes de formation des soldats ou de diplomatie?
Alors, le Rwanda est le second pays africain en termes de déploiement dans les opérations de maintien de la paix. Juste derrière l'Éthiopie. Le Rwanda est donc, et au niveau mondial, il est le cinquième. Il a, dans les opérations de l'ONU, environ 5000 troupes, notamment militaires et policiers. Et donc, c'est devenu une vraie marque de fabrique du Rwanda, de déployer des soldats dans les opérations multilatérales. Le Rwanda en tire plusieurs bénéfices, notamment diplomatiques. Il y a quand même, symbolique aussi. Il y a quelque chose de fort de voir un pays qui a connu le drame du génocide et qui se déploie dans le cadre des opérations de maintien de la paix de l'ONU pour éviter justement que ce genre de drame ne se répète dans d'autres théâtres. Mais il y a aussi, ceci contribue à augmenter le prestige international du Rwanda, mais il y a certainement aussi un intérêt beaucoup plus pratique pour le gouvernement du Rwanda, et en cela le Rwanda ne fait pas œuvre exceptionnelle. La plupart des pays africains contributeurs de troupes dans les opérations de maintien de la paix, en fait les plus grands contributeurs de troupes sont des pays qui, en un moment ou un autre, connaissent un gouvernement issu de rébellions armées. Et donc, il y a, en général, ces groupes armés qui arrivent au pouvoir ont des effectifs militaires pléthoriques. En les envoyant dans les opérations de maintien de la paix, il s'agit aussi pour ces pays non seulement de faire acquérir une certaine expérience en termes de maintien de la paix, mais aussi d'éviter que ces troupes, si, comme dans le cas du Rwanda, bien formées, bien équipées, puissent avoir l'idée de créer des troubles et éventuellement de faire des coups d'État à l'intérieur. Donc il y a plusieurs raisons, mais certainement que ça contribue aussi à augmenter les capacités techniques de ces armées lorsqu'elles sont déployées en multilatéral.
Voilà, le Rwanda qui, vous le disiez, a justement fait la dramatique, catastrophique expérience des limites de ses missions de maintien de la paix. On se rappelle que la MINUAR, la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, était sur place depuis un an déjà lors du génocide de mars à juillet 1994. Donc aujourd'hui, le Rwanda se veut à l'initiative de propositions de réforme des opérations de maintien de la paix, notamment les principes de Kigali en 2015 ont rendu les casques bleus un peu plus autonomes, et la Rwanda Peace Academy aujourd'hui accueille des soldats d'autres pays du continent africain pour les former aux opérations de maintien de la paix. Baptiste Muckensturm.
Oui, Paul Simon en dit, pour aller plus loin, est-ce que cette coopération militaire que vous évoquiez, est-ce que c'est une opportunité pour les autorités rwandaises de développer une coopération économique cette fois ?
Absolument. Alors, il faut dire que au départ, le Rwanda s'était surtout spécialisé dans les opérations multilatérales. Littéralement, depuis les années 2000, le début des années 2000. Mais il faut dire qu'il y a une conjonction d'événements qui ont fait découvrir au Rwanda qu'il y avait peut-être une niche, un potentiel économique à exploiter. Parce que depuis que le Rwanda se déploie dans des opérations multilatérales, l'armée rwandaise a acquis un certain professionnalisme qui est d'ailleurs apprécié à l'international. Mais il faut dire aussi que la croissance économique rwandaise a connu une baisse récemment. Et les critiques rwandaises, les critiques à l'égard du gouvernement rwandais pour une gouvernance qui est considérée comme autoritaire ont eu pour effet de baisser les investissements directs étrangers dans ce pays. C'est notamment a poussé le Rwanda à chercher de nouvelles sources, enfin le gouvernement à chercher de nouvelles sources de financement. Donc le déploiement de cette diplomatie militaire tient à un volet économique. On le voit en Centrafrique, où ce déploiement a été accompagné de signatures d'accords de coopération économique. On le voit au Mozambique aussi, où les intérêts économiques qui sont moins rapportés par la presse, mais bon, ils sont très présents. Il serait intéressant de voir aussi quel est le retour économique ou financier d'un déploiement rwandais au Bénin. Mais la dimension économique est essentielle, elle est importante, elle va bien au-delà de la dimension de l'accroissement du prestige international rwandais.
On sait combien au Rwanda, après le génocide, combien l'armée a participé à la construction de l'État, l'armée patriotique rwandaise liée au président Paul Kagame. Est-ce qu'aujourd'hui, cette armée est toujours aussi présente, les anciens de l'armée patriotique rwandaise, par exemple, toujours aussi présente dans les rouages de l'État et surtout des hommes d'affaires peut-être qui sont d'anciens militaires reconvertis et qui participent à ces relations bilatérales.
Ah oui, tout à fait. Le Rwanda est un cas classique de gouvernance politique issue d'un mouvement armé. Mouvement armé qui s'est emparé du pouvoir et qui a déployé ses cadres précédemment militaires dans tous les secteurs de la vie sociopolitique et économique. L'armée reste très impliquée. Déjà, c'est une vraie, c'est l'ossature même du gouvernement rwandais. Elle reste très impliquée dans la vie politique et économique, même si l'armée a connu une profonde transformation. Elle s'est élargie. Elle est partie d'un groupe armé qui s'est fortement intégré. On voit toutes les composantes de la société rwandaise qui sont représentées. C'est une vraie armée nationale aujourd'hui, qui d'ailleurs est aussi un certain prestige en interne, le président Kagame en étant lui-même issu. C'est un acteur de la vie économique et politique très important.
Donc les forces rwandaises de défense aujourd'hui, elles comptent d'anciens de l'armée patriotique rwandaise, dont certains d'ailleurs ont été impliqués bien après le génocide. Ils ont été, certains encore une fois, mis en cause par la justice internationale pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre pour des exactions commises contre des civils hutus en représailles au génocide. Très peu aujourd'hui ont été jugés, donc certains voisins comme la République démocratique du Congo aujourd'hui critiquent énormément cette armée rwandaise. Peut-être pour conclure, Paul Simon Andy, est-ce qu'il y a toujours au Rwanda, comme dans d'autres pays du continent africain, cette crainte que cette armée à qui on a donné beaucoup de moyens se retourne un jour contre le pouvoir?
Ah oui, toujours. C'est une crainte qui est quasi omniprésente au Rwanda, mais on voit ces tendances aussi dans d'autres pays où le gouvernement est issu d'une rébellion armée. Récemment, au Rwanda, on a vu qu'il y avait de plus en plus de contestations en interne, notamment de la part de ceux qui avaient engagé la campagne de prise de pouvoir dans les années 93-94, qui a abouti notamment à l'arrêt du génocide et à la prise de Kigali. Donc, il y a de plus en plus de dissensions entre le président Kagame et ses lieutenants de l'époque. Et on voit que la bataille est dure au point où les contestations se terminent souvent par des morts avec des soupçons d'assassinat, souvent en dehors du Rwanda d'ailleurs. Donc, il y a une vraie crainte par le gouvernement rwandais que les militaires d'alors, mais pas que eux, mais que les militaires d'alors se retournent contre le gouvernement. Mais il y a d'autres poches comme ça. Il y a d'autres acteurs dont le gouvernement se méfie énormément. Et notamment, on sait que le gouvernement continue de se méfier des groupes des FDLR, ce qu'ils nomment les anciens génocidaires, dont certains avaient fui en République démocratique du Congo pour se réfugier. Le gouvernement rwandais justifie ses incursions dans ce pays voisin pour notamment dit-il, combattre ces forces dont il a peur qu'elles se retournent un jour contre le régime rwandais.
Merci beaucoup, Paul Simon. Andy, j'ajoute que même ce multilatéralisme tous azimuts du Rwanda pose question aussi en interne, en se demandant une fois que le Rwanda aura pacifié tous ses théâtres d'opération, et donc le dernier en date, le Bénin, qu'est-ce qu'il va faire, le Rwanda, de toutes ses troupes, 30 000 hommes contre le Rwanda aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Paul Simon. Andy, je rappelle que vous êtes directeur du bureau Afrique de l'Est de l'Institut d'études de sécurité et que vous étiez en direct ce matin depuis Addis Abeba, en Éthiopie.
Merci, les enjeux, c'est fini pour aujourd'hui, mais je peux déjà vous annoncer que demain, il y aura de nouveaux enjeux territoriaux à 6h10 et de nouveaux enjeux internationaux à 6h40.
France Culture, l'esprit d'ouverture.